Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Maintenant, je veux que vous ouvriez votre Bible à 2 Pierre 1, 5 à 11. Je suis convaincu que cela me prendra encore quelques messages pour terminer notre étude de ce texte. Franchement, j'ai été très étonné, après avoir été ici pendant plus de 20 ans à Grace Church, et en prêchant pour la première fois une série sur l'assurance, de constater qu'après chaque message que j'ai prêché à ce sujet, au moins une personne, parfois 5 ou 6 personnes, sont venues me voir et m'ont dit « Jusqu'à ce soir, je n'ai jamais éprouvé l'assurance de mon salut. » Ils m'ont remercié de m'être exprimé sur cette question. Ils ont remercié Dieu pour la clarté de sa parole en ce qui concerne l'assurance. C'est triste de penser au fait que si c'est vrai ici dans notre Église, cela doit être vrai partout dans la chrétienté. Qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne jouissent pas de l'assurance de leur salut. C'est particulièrement triste parce que Dieu veut que nous ayons une pleine assurance. C'est ce qui est dit dans Hébreux 6, 11 et 10, 22. Il veut que, selon 1 Jean 3, 19, nous ayons le cœur assuré. Il veut que, selon Colossiens 2, 2, nous ayons toutes les richesses de l'assurance. Tout vrai chrétien devra apprécier la réalité de son salut. Ne pas avoir cette assurance, c'est vivre dans le doute, vivre dans la peur, vivre dans une certaine forme de dépression spirituelle et un certain genre de misère. Certes, ne pas avoir d'assurance signifie que vous ne pouvez pas vous réjouir en Dieu, ce qui est inhérent à l'expérience chrétienne, et que vous ne pouvez pas profiter de l'anticipation de toutes ses promesses. Vous n'êtes pas en mesure de savourer la réalité de la foi et l'exaltation de l'espérance. Vous voyez, la promesse de la vie éternelle, la promesse d'une vie abondante, suppose une assurance. Si je veux jouir de tout ce qui est à moi, en Christ, je dois savoir que je suis en Christ. Sinon je vivrai dans la peur, la misère, le doute. Pierre est très préoccupé par le fait que ses lecteurs bénéficient d'une assurance. C'est donc un thème principal de cette très brève épître. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler brièvement comment il s'adapte. Ceci est un livre très court. Il y a seulement 3 chapitres. Le thème dominant de ce livre est le chapitre 2. Et le chapitre 2 concerne les faux enseignants, les faux prophètes. Et ils sont décrits en termes très clairs et graphiques dans le 2e chapitre. Maintenant, le chapitre 2, qui se concentre sur les faux prophètes et les faux enseignants, est entouré d'autres enseignements visant à contrer avec succès leurs attaques. En d'autres termes, le chapitre 1 et le chapitre 3 sont liés au thème, en ce que le chapitre 1 et le chapitre 3 indiquent aux croyants comment être équipés pour faire face aux faux enseignants, pour combattre les intrusions, les illusions de la tromperie de faux enseignants. Le croyant doit savoir certaines choses. Le croyant doit avoir une connaissance exacte et vraie. La question que nous nous posons est celle-ci. Que devons-nous savoir? Dans le chapitre 1, versets 12 à 21, nous devons connaître les Écritures, et il s'occupe de cela. Au chapitre 3, nous devons connaître notre sanctification. Dans le chapitre 1, versets 3 à 11, nous devons connaître notre salut. Si vous connaissez les Écritures, et si vous savez que vous êtes sanctifié et mis à part pour Dieu du péché, et si vous savez que votre salut est réel, alors les attaques des faux docteurs sont contrecarrées. Si vous ne connaissez pas les Écritures, et si vous ne connaissez pas et n'expérimentez pas un état de sanctification continue, et si vous n'êtes pas sûr de votre salut, vous devenez une victime d'incertitude. Maintenant, nous regardons cette section sur le salut, connaissant votre salut. C'est une défense très essentielle contre les faux enseignants. Si vous portez le casque de l'espérance du salut, alors les coups de Satan qui viennent contre vous pour vous faire douter de votre salut et douter de l'œuvre de Dieu sont contrecarrés. Vous êtes protégés contre les faux enseignants, les esprits démoniaques et Satan lui-même. Ainsi, la première ligne de défense est que vous devez connaître votre salut. En fait, le chapitre premier jusqu'à présent s'est concentré sur cela. Au verset 1, il est dit que vous devez connaître la source de votre salut. Elle est à vous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Au verset 2, il est dit que vous devez connaître la substance de votre salut. Elle repose sur la grâce et la paix, multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Au verset 3 et 4, vous devez connaître la suffisance de votre salut, que vous avez tout ce qui concerne la vie et la piété. Maintenant, au verset 5 à 11, vous devez connaître la certitude de votre salut. Vous devez en être sûr. Donc, dans les versets 5 à 11, il parle de la question de la certitude. Cela, bien aimé, est crucial, si nous voulons résister aux assauts de faux enseignants. Vous dites, pourquoi? Parce que les faux enseignants essaieront toujours de vous donner une autre façon d'avoir quoi? Le salut. Toujours. Mais si je sais où j'en suis en termes du salut, et qu'il n'y a aucun doute, alors il n'y a pas d'attirance pour un faux enseignement. Au verset 3 et 4, nous avons indiqué que nous avons tout ce dont nous avons besoin en Christ. Pourtant, versets 5 à 11, Pierre dit que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour ajouter à ce que Christ a fait, afin que nous puissions expérimenter la certitude. C'est assez paradoxal. Les versets 3 et 4 disent « Vous avez tout en Christ ». Les versets 5 à 11 disent « Ajoutez cela maintenant. Comment pouvez-vous ajouter quelque chose à tout ? C'est, encore une fois, ce merveilleux paradoxe d'être complet en Christ et pourtant d'avoir à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le suivre. Donc, nous trouvons que les versets 5 à 11 nous donnent le chemin de l'assurance. Verset 5, regardons-le. À cause de cela même. Maintenant, je veux vous arrêter là. Pour quelle raison ? Parce que nous avons tout en Christ. Parce que par sa puissance divine, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Permettez-moi de revenir là-dessus, juste en résumé. Parce que vous avez le pouvoir divin, vous accordant tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Parce que cela vous vient par la vraie connaissance de Jésus-Christ. Par lui, vous avez de magnifiques et précieuses promesses. Vous êtes devenu participant de la nature divine. Vous avez échappé à la corruption qui règne dans le monde par la luxure. Maintenant, pour cette raison, en d'autres termes, à cause de tout ce qui est à vous en Christ, faites ceci. Là encore, c'est le mystère de la vie spirituelle. On vous donne tout en Christ, et pourtant, il faut tout ce que nous avons pour suivre cela. Parce que nous avons tout en Christ, toutes les ressources gracieuses pour la suffisance spirituelle. Nous sommes appelés à faire un maximum d'efforts. Maintenant, les faux enseignants s'attaqueront avec succès à ceux qui doutent de leur salut. Les faux enseignants auront les moyens de les rendre malheureux, pécheurs, douteux, faibles, évanouis, dans leur culte, leur prière, les rendant sans joie, impuissants dans le service, confus sur ce qu'ils croient. Mais pour ceux qui ont confiance en leur salut, confiance dans les richesses que Christ leur a données, sûrs et assurés de la vraie connaissance du Sauveur, les faux docteurs n'ont rien à offrir. Donc, pour cette raison, à cause de tout ce que nous avons en Christ, ajoutons, afin que nous puissions profiter de son avantage, à savoir l'assurance. Le verset 5 appelle donc à un effort assidu. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Maintenant, cela nous met dans le texte. Ce que je voudrais faire, c'est prendre ce concept d'assurance et le déposer en quatre sections pour vous. Nous allons simplement parcourir ces sections, une à une. Premièrement, l'effort est prescrit. Deuxièmement, les vertus sont poursuivies. Les options sont présentées et les bénéfices sont promis. Commençons par l'effort prescrit. Nous venons de le lire. Je dois dire, comme une annotation, vous penseriez qu'après les versets 3 et 4, vous avez tout ce qui concerne la vie et la piété. Dieu a déversé sa puissance divine en vous. Vous avez tout cela. Ou la prochaine déclaration pourrait être « Alors lâchez prise et laissez Dieu, n'est-ce pas ?» Ou la prochaine déclaration pourrait être « Et détendez-vous et laissez Dieu faire. » Mais c'est justement le contraire. L'effort prescrit, verset 5, à nouveau, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Maintenant, il y a l'effort prescrit, à cause du travail salvateur de Dieu en nous et à cause de sa complète suffisance. C'est comme Philippiens 2, 12 et 13. Travaillez à votre quoi ? Salut, Dieu l'a pourvu, appliquez-vous, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et ensuite, le mot suivant, ou joindre. C'est intéressant. C'est une déclaration intéressante. Permettez-moi de vous y plonger un peu plus profondément. Faites tous vos efforts, en y apportant tout empressement, version Darby. Joignez votre foi. Que signifie la phrase « Faites tous vos efforts, avec tout empressement » ? Juste ceci. Faites le maximum. C'est l'idée d'apporter tous les efforts à côté de ce que Dieu a fait. Dieu a fait tout cela. Il vous accompagne à chaque effort. C'est le mot « appliquez-vous ». Tout empressement, spoudé, signifie diligence, précipitation. Il est utilisé par quelqu'un qui est pressé. Cela signifie du zèle, parole très forte. Et donc il dit, à côté de ce que Dieu a apporté, tous les efforts zélés, impatients, précipités et pressés, assez directs. Puis le mot fournir ou joindre. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie donner généreusement. Il veut dire donner sans compter. C'est un mot très intéressant, soit dit en passant, un mot différent. C'est un mot qui signifie chef de cœur. Puis, il y a une préposition devant. Vous dites, comment pourriez-vous traduire un mot qui signifie chef de cœur par le mot fournir? Tout simplement parce que le chef de cœur avait la responsabilité de fournir tout ce qui était nécessaire pour son cœur. Donc le mot est venu pour signifier un fournisseur. Un chef de cœur était simplement synonyme d'un fournisseur. William Barclay dit ceci, « Peut-être le plus grand cadeau que la Grèce, et en particulier Athènes, a donné aux hommes, étaient les grandes pièces de théâtre et drames écrits par des hommes, comme Eschyle, Sophocle ou Euripide, des œuvres de littérature et d'art qui sont encore parmi les possessions les plus estimées du monde. Toutes ces pièces de théâtre avaient besoin de grands cœurs, car les cœurs en faisaient partie intégrante. Il était donc très coûteux de produire de telles pièces. Dans les grands jours d'Athènes, il y avait des citoyens d'esprit public qui ont volontairement assumé le coût, à leurs propres frais, d'entretenir, de former et d'équiper de tels cœurs. C'est lors des grandes fêtes religieuses que ces pièces ont été produites. Par exemple, à Dionysia, il y a eu 3 tragédies, 5 comédies et 5 qu'on appelle des dithyrambes. Il fallait chercher des hommes pour trouver, équiper et former des cœurs pour tous. Cela pouvait coûter cher pour un tel homme. Et c'était la fierté de ces hommes de former et d'équiper leurs cœurs, aussi noblement et magnifiquement qu'ils le pouvaient. Les hommes qui ont entrepris ces devoirs, de leur propre poche et par amour pour leur ville, étaient appelés choregoi. C'est le mot ici. Et le verbe choregein est le verbe utilisé pour entreprendre un tel devoir de fournir un cœur. Le mot a donc une certaine somptuosité. Cela ne signifie jamais s'équiper de manière parcimonieuse ou avare. Cela signifie abondamment et volontairement verser tout ce qui est nécessaire pour une noble performance. Le mot épicorégeen est entré dans un monde plus vaste, et il a grandi pour signifier non seulement équiper un cœur, mais être responsable de tout type d'équipement. Cela peut signifier équiper une armée de toutes les provisions et fournitures nécessaires. Cela peut signifier équiper l'âme de toutes les vertus nécessaires et charmantes pour la vie. Mais toujours au fond, il y avait l'idée d'une générosité volontaire, et sans compter pour fournir un équipement. C'est donc cette parole que l'Esprit de Dieu choisit. De nouveau verset 5. Pour cette raison, à cause de tout ce que Christ a fait pour vous, en appliquant toute diligence, toute provision, somptueusement, généreusement, pas d'une manière avare ou superficielle. Puis cette petite phrase. Dans votre foi, la foi est assumée. La foi est le terrain dans lequel poussent les fleurs de sanctification. Donc dans votre foi, votre première croyance en Christ, vous devez appliquer généreusement tout le zèle, accompagner ce que Christ a fait et faire tout ce que vous pouvez faire. C'est ce qu'il dit. Maintenant quelqu'un pourrait dire, n'y a-t-il pas d'assurance dans la foi? Oui, il y a une assurance dans la foi. Et celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons noté à d'autres occasions, a toutes les raisons d'en être assuré. Si vous savez que vous croyez, alors le Dieu de l'espérance peut vous remplir de joie et de paix en croyant, dit Romains 15, 13. Il peut y avoir de la joie et de la paix simplement en croyant. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. En d'autres termes, ces Thessaloniciens, qui étaient des chrétiens relativement nouveaux, pouvaient savoir qu'ils étaient sauvés et être remplis d'espoir à cause de la foi en la vérité. La foi porte en elle l'assurance. Hébreux chapitre 6 note également la même vérité, ainsi qu'en 1 Jean 5, un texte très familier, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croire peut être savoir, avoir la foi peut donner une assurance. Je peux savoir que je crois. Vous pouvez savoir que vous croyez, et croire apporte le salut, et vous pouvez avoir une certaine assurance. Mais je ne crois pas que cette foi salvatrice initiale, continuera à porter ses fruits d'assurance si on ne fait pas des efforts pour obéir à ce que dit ce texte. Vous pouvez jouir de cette assurance au début, mais si aucun effort zélé pour fournir généreusement ce qui est nécessaire, à côté de ce que Christ a fait, n'est fait, alors je crois qu'il y aura une perte de la joie de l'assurance. Donc il y a une prescription donnée ici, et cette prescription est diligemment poursuivie par l'approvisionnement complet de toutes ces choses. La plénitude de l'assurance. Écoutez attentivement, est le produit d'un effort zélé pour exploiter la pleine réserve de vertus spirituelles, et la mettre à côté de la pleine réserve de la grâce de Dieu. Donc, dans un sens très réel, l'assurance vient à un croyant qui suit cette prescription. Maintenant, c'est l'attitude. Regardons l'action. Nous avons vu ce qui était prescrit, l'effort prescrit, un effort consommé, nécessitant un zèle somptueux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je comprends cette attitude, mais quelle est l'action? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Regardons donc le point numéro 2, les vertus poursuivies. L'effort prescrit, les vertus poursuivies. Qu'est-ce qu'un croyant doit poursuivre dans sa vie pour provoquer l'expérience de l'assurance? Verset 5. Joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Les sept vertus à poursuivre, et chacune de ces vertus s'incarne en quelque sorte dans la précédente. De la foi vient l'excellence morale, de l'excellence morale vient la connaissance, etc. Maintenant, je veux que vous regardiez ces derniers. Nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps, mais vous serez très revigorés en voyant ce que Pierre veut dire. Le premier est l'excellence morale, arete. C'est le mot vertu. Dans les temps classiques, le mot signifiait la capacité donnée par Dieu d'accomplir des actes héroïques. Cela signifiait la qualité de vie de quelqu'un, ce qui le rend remarquable. C'est très rare, soit dit en passant, dans les Écritures, mais pas dans le grec profane. C'est un terme noble, c'est un terme d'héroïsme, c'est un terme d'héroïsme moral, d'excellence morale, de qualité. Il était également utilisé pour désigner l'accomplissement correct et excellent de quelque chose. Par exemple, un couteau était censé être arrêté s'il coupait bien. Un cheval était parfait s'il courait fort et vite. Un chanteur était arrêté s'il chantait bien. Parfois le mot signifiait courage. Parfois cela signifiait l'excellence efficace ou la vertu opérationnelle. Cela n'a jamais signifié une vertu cloîtrée ou une vertu dans le vide, comme s'il s'agissait d'une attitude, mais d'une vertu qui se manifeste dans une vie. Ainsi, il dit dans votre foi, de tout votre cœur et de tout votre esprit, appliquez avec grand effort, avec empressement, avec zèle et hâtivement, l'apport somptueux d'excellence morale à votre vie. Permettez-moi de vous poser une question simple. Où trouvez-vous le modèle de cette excellence? Dans le Christ. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 3, vous avez cette déclaration monumentale de Paul qui définit le modèle du comportement de tous les croyants. Il a dit plus magnifiquement que tout autre endroit dans les Écritures. Ce qu'il a dit était « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce qu'il disait était « Je poursuis la ressemblance avec le Christ. » Il a admis « Je ne l'ai pas atteinte, mais je la poursuis. » Le but est d'être comme Christ. La récompense d'être comme Christ. Le but est la récompense. Vous vous souvenez de notre étude des Philippiens. Poursuivez la ressemblance avec le Christ. Rappelez-vous ce que nous avons vu dimanche matin dernier, où Paul a dit aux Thessaloniciens. Excellez encore plus. Certains ont même suggéré que cela pourrait signifier une énergie morale. Les personnes qui parlent de ce mot semblent avoir peur. Les lexicographes, les personnes qui donnent des définitions, semblent avoir peur que quelqu'un pense que le mot a une signification statique, alors qu'il n'en a pas. Et donc certains l'ont traduit par l'énergie morale, le pouvoir qui accomplit des actes d'excellence. Donc, ajoutez à votre foi l'excellence morale, une qualité de vie, la vertu spirituelle, une sorte d'héroïsme sacré. Maintenant, cela nous amène à la seconde de ces vertus. Le verset 5 dit dans votre excellence morale, la connaissance. L'excellence morale ne pourrait se produire que si au cœur se trouvait la connaissance, n'est-ce pas? Le discernement, la vision spirituelle. Le mot connaissance signifie une compréhension, une vérité correctement comprise, correctement appliquée. Donc, nous voulons poursuivre l'excellence morale, sachant que dans notre excellence morale, il doit y avoir une connaissance spirituelle, un discernement. Nous devons savoir avant de pouvoir vivre. Nous devons comprendre comment nous devons nous conduire, avant de pouvoir nous conduire de cette manière. L'excellence morale dépend de gnosise, de la connaissance d'un caractère élevé et d'une haute qualité. Pour emprunter un autre terme théologique, l'illumination. Avoir votre esprit illuminé ou éclairé sur la vérité. Ceci, bien sûr, implique une étude diligente et la recherche de la vérité dans la parole de Dieu. Maintenant, inhérent à votre connaissance est une autre vertu. Regardez le verset 6. À votre connaissance, la maîtrise de soi. Tout lien une vraie connaissance et un vrai discernement et la maîtrise de soi. Le mot signifie littéralement en grec « se tenir » et à l'époque de Pierre, il était utilisé en athlétisme. Les athlètes étaient autocontrôlés, sobres et disciplinés. Ils disciplinaient leur corps pour qu'ils se soumettent. 1 Corinthiens 9:27. Ils s'abstenaient de la nourriture malsaine, du vin et de l'indulgence sexuelle pour se garder sains. Ils faisaient des exercices disciplinés pour la réussite sportive. C'est contrôler la chair, les passions, les désirs corporels, plutôt que de vous laisser contrôler par eux. Il dit donc de poursuivre l'excellence morale, en réalisant qu'au cœur de l'excellence morale se trouve le discernement spirituel. En réalisant qu'au cœur du discernement spirituel se trouve la maîtrise de soi. Qu'importe si je discerne, si je ne contrôle pas, comment puis-je être moralement excellent? Soit dit en passant, tout comme une annotation, les faux enseignants prétendent généralement que leurs connaissances vraies et secrètes les ont libérés du besoin de maîtrise de soi. Rappelez-vous, nous en avons discuté. Ils ont prêché l'indulgence. Ils étaient gourmands. C'étaient des exploiteurs. Ils ont suivi leur propre convoitise. Pierre dira tout cela dans les chapitres 2 et 3. Ils ne restreignent rien. Mais Pierre renverse cela. Il dit que toute théologie qui dissocie la foi de la conduite est une hérésie, la foi, et dans cette foi l'excellence morale, et dans cette excellence morale le discernement spirituel, et dans ce discernement spirituel la maîtrise de soi. Ceci est essentiel à la vie chrétienne. Contrôler les désirs charnels cohérents avec ce que je sais de la vérité pour produire l'excellence morale. La vertu, alors guidée par la connaissance, discipline le désir, et ces désirs deviennent le serviteur et non le maître de sa vie. C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi doit être l'une des plus grandes vertus chrétiennes. Il y a en plus un quatrième point, verset 6. À la tempérance, la patience serait la meilleure traduction. Hupomone, patience ou endurance, pour faire ce qui est juste, sans jamais céder à la tentation, sans jamais céder devant l'épreuve, sans jamais renoncer à cause de la difficulté, sans jamais céder au péché. Michael Green a déclaré « Le christianisme d'un tel homme est comme la combustion constante d'une étoile, plutôt que l'éclat éphémère et l'éclipse rapide d'un météore. C'est un magnifique portrait de ce que nous devons poursuivre. Nous recherchons l'excellence morale, basée sur le discernement spirituel, qui produit la maîtrise de soi, qui produit l'endurance sous la tentation, sans succomber. Soit dit en passant, ce mot hypomone ne peut pas être traduit d'un mot, et il n'y a pas d'équivalent anglais. En grec classique, ce n'est pas un mot courant, mais il est fréquemment utilisé dans les Écritures, comme un travail difficile. Les ennuis qui viennent de troubler une personne, contre sa volonté, rendant la vie extrêmement difficile, douloureuse, choquante même. Il amène la pensée de la mort, Il est utilisé en grec classique pour décrire ces mêmes choses. Il est utilisé en référence aux Maccabées, une résistance spirituelle permettant aux hommes de mourir pour leur foi en Dieu, comme ils l'ont fait lors de la révolution des Maccabées. C'est cette force spirituelle qui mourra avant de céder, si fort, si résistant. Encore une fois, je cite William Barclay, dans ses paroles du Nouveau Testament. Maintenant, nous pouvons voir l'essence et la caractéristique de cette grande vertu, hypomone. Ce n'est pas la patience qui peut s'asseoir et incliner la tête, et laisser les choses descendre au-dessus, et les endurer passivement jusqu'à ce que la tempête soit passée. Ce n'est pas, comme pour le mot écossais, « tôle », simplement tolérer ou endurer. C'est l'esprit qui peut supporter les choses non seulement avec résignation, mais avec un espoir flamboyant. Ce n'est pas l'esprit qui siège statiquement au même endroit, mais l'esprit qui porte les choses parce qu'il sait que ces choses mènent à un but de gloire. Ce n'est pas la patience qui attend sombrement la fin, mais la patience qui espère radieusement l'aube. Cela a été appelé une cohérence masculine à l'essai. On a dit qu'elle a toujours le fond d'andreia, le courage. Chrysostome appelle hypomone la racine de tous les biens, la mère de la piété, les fruits qui ne pourrissent jamais, une forteresse qui ne peut jamais être prise, un port qui ne connaît pas de tempête. Il l'appelle la reine des vertus, le fondement des bonnes actions, la paix dans la guerre, le calme dans la tempête, la sécurité dans les complots. Et ni la violence de l'homme, ni les pouvoirs du mal ne peuvent le blesser. C'est la qualité qui maintient un homme debout, le visage face au vent. C'est la vertu qui peut transmuter l'épreuve la plus difficile en gloire, car au-delà de la douleur, elle voit le but. Conclut la citation. Courageux, inébranlable, joyeux, maîtrise de soi sous pression, résistance à la tentation, construit sur la sagesse spirituelle, poursuivant l'excellence morale. Au cœur de cette endurance persévérante se trouve le numéro 5. Et dans votre persévérance, ou votre endurance, la piété. La piété, quel mot magnifique! Il est utilisé également au verset 3. Eusebeia. Cela signifie vraiment le respect. Maintenant, écoutez attentivement pendant que je décris ce mot. Cela signifie respect. Cela signifie une conscience pratique de Dieu dans tous les domaines de la vie. Il était utilisé pour traduire la vraie religion. Cela pourrait être traduit par un véritable culte. Il a l'idée d'adorer Dieu. Il a l'idée de la conscience de Dieu. Les Grecs disaient qu'un homme était eusebeia, un amoureux des dieux. C'est un mot pour décrire quelqu'un qui adore, qui a du respect, qui adore Dieu. En fait, Joseph, l'historien juif, oppose ce mot à euidololatroia, l'idolâtrie. Eusebeia, la révérence, donne à Dieu sa place légitime. Le fait d'adorer Dieu comme il devrait être adoré. L'idolâtrie fait le contraire. Nous devons donc poursuivre sans relâche, avec ardeur, avec empressement, avec un grand zèle, avec passion, l'excellence morale. Au cœur de cette excellence morale, il faut se concentrer sur Dieu. Pour résumer tout ce que les Grecs ont dit sur cette conscience de Dieu, ils ont dit que le mot incluait tous les rituels liés au culte. Ils ont dit que le mot comprenait la loyauté envers Dieu. Ils ont dit que le mot incluait le respect envers tout ce qui appartenait à Dieu, qu'il comprenait l'esprit de dévotion à la volonté de Dieu. Quoi que disent les Grecs du mot eusebeia, les chrétiens l'ont rendu plus grand. Les chrétiens l'ont rendu plus grand. Paul dit dans 1 Timothée 4, 8, « La piété est utile à tout. Le croyant doit aimer Dieu et adorer Dieu, non pas avec des vitraux et de la musique d'orgue, mais avec une vie de référence pour Dieu et une dévotion à sa sainte volonté. » Il doit faire ce que David a fait dans le psaume 16, mettre toujours le Seigneur devant lui. Ce doit être notre engagement. Les faux enseignants sont irrévérencieux, irreligieux, impies. Les vrais chrétiens poursuivent la conscience pratique de Dieu dans chaque détail de leur vie. Ils sont caractérisés par une profonde vénération pour Dieu, ce qui conduit à un courage, une constance, une joie, un contrôle de soi sous la tentation, construit sur un discernement spirituel. Dans la poursuite de l'excellence morale, c'est un merveilleux tissu tissé ici. Puis une sixième vertu, à la piété, dit le verset 7, l'amour fraternel, Philadelphie, l'affection et l'amitié fraternelle, le sacrifice mutuel, les uns pour les autres. Nous n'avons pas besoin de consacrer beaucoup de temps à cela. Nous l'avons souvent fait. Au cœur de la piété, au cœur de la vénération de Dieu, s'aimer les uns les autres, En fait, 1 Jean 4, 20 l'exprime ainsi. Si vous aimez Dieu, vous vous aimerez. D'abord, Jean dit que si vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas votre frère, vous êtes un menteur, parce que si vous aimez vraiment Dieu, vous aimerez votre frère. Donc, si vous êtes un vrai adorateur, si vous êtes vraiment Eusebeia, pieux et respectueux, vous montrerez de l'affection envers les autres. Vous voyez, ces deux-là sont indissociables. Quel est le grand commandement? Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre esprit et votre force. Le second, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Inséparable. La première moitié des 10 commandements est de savoir comment aimer Dieu. La seconde moitié des 10 commandements est de savoir comment aimer son prochain. L'élément couronnant passe donc au point suivant. Le 7e, à l'amour fraternel, la charité, l'amour, agapé, l'amour sacrificiel et altruiste. C'est l'amour de la volonté, c'est l'amour du choix, c'est l'amour de la volonté, pas l'amour de l'émotion. C'est la plus haute vertu, c'est le summum bonum de la vie chrétienne. C'est ce que Paul a appelé la plus grande chose, l'amour. Au cœur de mon adoration envers Dieu se trouve cette gentillesse concomitante envers mon frère. Au cœur de cette bonté envers mon frère se trouve l'amour de Dieu répandu à l'étranger dans mon cœur. Il y a la poursuite. Il pourrait être dit bien plus de choses à propos de tout cela, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Nous recherchons l'excellence morale. L'excellence morale signifie être comme le Christ, et diligemment, avec zèle, avec toute notre énergie et notre puissance. Nous nous appliquons à un degré somptueux pour côtoyer ce que Christ a fait pour nous, l'effort maximum dans la poursuite de ces choses. La première chose est que nous recherchons l'excellence morale, la vertu, la qualité, l'héroïsme spirituel, ce qui signifie que nous recherchons vraiment l'amour le plus élevé, le plus pur et le plus noble, qui se reflétera ensuite dans la bonté envers les autres chrétiens, résultant d'une profonde révérence pour notre Dieu bien-aimé, conduisant à un courage, une constance, une joie, une auto-estime, une maîtrise de soi sous la tentation, construit sur le discernement spirituel et la poursuite impérieuse et consommatrice d'être comme le Christ. C'est juste un grand cercle. La foi est le fondement de toute chose, et l'amour est le point culminant. Si j'avais le temps, je pourrais vous faire traverser tous ces passages qui parlent de la foi, qui fonctionne par amour. Quelle poursuite! Nous avons tout en Christ, dit-il, et pourtant nous devons ajouter à ce que nous avons en Christ, avec un effort maximal, la vertu morale, la sagesse pratique, la maîtrise interne de soi, l'endurance dans toutes les tentations, le respect conscient de Dieu, la bonté fraternelle et un amour pur et omniprésent envers Dieu et envers tout le monde. Je pense qu'il y en a assez ici pour nous occuper, n'est-ce pas? Puis il dit au verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si ces choses sont dans votre vie, et si elles augmentent, vous allez être fructueux, et vous n'oublierez pas si vous avez été sauvé ou non. En d'autres termes, vous allez bénéficier d'une assurance. Dieu ne veut pas prendre votre assurance. Dieu veut que vous en profitiez. Dieu ne veut pas vous rendre malheureux et mettre un doute. Dieu veut vous rendre joyeux et confiant. Dieu ne veut pas que vous vous demandiez si vous arriverez au paradis un jour. Dieu veut que vous sachiez sans l'ombre d'un doute et que vous viviez avec espérance. La manière d'en faire l'expérience n'est pas de lâcher prise et de laisser Dieu, mais de suivre l'effort prescrit et les vertus à poursuivre. Cela ne résume-t-il pas en grande partie ce que nous avons appris dans 1 Jean? Là où ces choses sont des réalités dans votre vie, il y a l'assurance du salut. Quand les faux enseignants arrivent, ils n'ont rien à vous offrir. Pour la connaissance, ils veulent vous rendre aveugle. Pour se contrôler, ils veulent vous donner une licence de faire ce que vous voulez. En ce qui concerne la tentation, ils veulent vous faire succomber. À propos de la vénération de Dieu, ils veulent vous donner de l'irrévérence. Concernant l'amour des enfants de Dieu, ils veulent vous donner de l'animosité. À la place du véritable amour, ils veulent vous donner de la luxure. Mais cela ne vous posera pas de problème si vous ressentez ces choses de plus en plus, car vous vous êtes appliqué avec diligence à les produire dans votre vie. Il y a encore 2 points. Nous allons devoir attendre la conclusion puissante à ce texte. Prions. Père, il semble que le temps passe si vite. Nous commençons à peine à respirer en profondeur, et il est temps de refaire surface. Nous commençons juste à nous habituer à être divorcés des choses du monde, pour penser profondément à toi. Et le temps est révolu, Seigneur. Aide-nous à ne pas monter trop vite, mais à rester assez longtemps, pour expérimenter tout ce que tu as pour que nous comprenions. Aide-nous à savoir que tu aspires à ce que tes enfants aient la vie, et qu'ils l'aient plus abondamment. Et une vie abondante doit signifier l'assurance du salut. Tu veux que nous ayons l'assurance. Tu nous en as donné les moyens. Si nous voulons nous consacrer à cette poursuite des ressources qui sont déjà là, l'excellence morale est là dans l'esprit. La connaissance est là dans la parole. L'endurance est là dans la promesse qu'aucune tentation ne nous a pris à part ce qui est commun à l'homme. Mais Dieu est fidèle, qui ne nous permettra jamais d'être tentés, mais trouvera toujours un moyen de nous faire échapper, afin que nous puissions la supporter. Tout est là. La bonté et l'amour fraternel sont là, car Dieu nous a appris à nous aimer les uns les autres. L'amour est là parce que tu l'as répandu à l'étranger dans nos cœurs. Tu nous l'as abondamment donné. Aide-nous à la poursuivre avec impatience. Nous ne comprenons pas le mystère de la façon dont tout est nôtre en Christ, et pourtant nous devons poursuivre tout cela avec chaque once d'énergie que nous avons. Mais c'est ainsi que Dieu l'a conçu. Rends-nous fidèles pour que nous puissions avoir l'assurance, la plus grande de toutes les expériences chrétiennes, de savoir que nous t'appartenons maintenant et pour toujours. De là découle toute notre joie. Merci de nous avoir donné les moyens de cette pleine joie. Au nom du Christ, nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.